Nina Salomé Saké et son petit livre Résister, édité chez Payot, continue de cartonner. Elle arpente avec sa longue chevelure les plateaux télé en France et en Belgique. C'est tout simplement la meilleure vente 2025 dans les librairies indépendantes côté francophone. En France, elle a vendu 400 000 exemplaires. Elle sort une nouvelle édition en ce début d'année. Résister donc face à l'extrême droite, c'est le cœur du combat de la journaliste essayiste française qui sera nommée ce soir docteur honoris causa à Lucé-Louvain. Elle est notre invitée ce matin.
5h, 10h.
Matin première.
Bonjour Salomé Saké.
Bonjour.
Comment vous expliquez-vous votre succès en fait ?
Je l'explique pas, évidemment, je n'y attendais pas du tout, mais...
Qu'est-ce que ça traduit alors ?
Je constate qu'il y a quand même eu un phénomène de bouche à oreille autour de ce livre. Il y a deux phénomènes, il y a des personnes qui l'achètent pour s'informer elles-mêmes, et il y a des personnes qui l'achètent pour l'offrir à leurs proches, et je pense que ces personnes-là ont contribué à ces ventes qui sont assez inattendues, parce qu'il y a une volonté de convaincre, et que dans le livre, j'appelle au dialogue, j'appelle à discuter avec vos proches, parler de politique, surtout n'évincez pas ces sujets-là. Et ce livre, il donne des faits concrets, des outils. Et je pense qu'il a été pensé par beaucoup de gens comme un outil de dialogue avec leurs proches et que ça peut en partie expliquer ce qui s'est passé. Et je rajouterais qu'en France, on a un succès absolument immense des livres d'extrême droite en ce moment qui sont mis en avant dans énormément d'endroits.
Parce que dans le top 50, il y a aussi le livre de Bardella, il y a aussi le livre de Nicolas Sarkozy dans le top des ventes en France. Hein.
Donc moi, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des images d'eux en train de mettre mon livre sur les autres livres et qui a presque un acte un peu militant de leur part. Ça a même été rapporté dans certains articles.
C'est à l'image de la polarisation en fait aussi de la société. Votre livre est l'alternative à leur projet.
Je pense pas. Moi je me considère pas en tout cas comme l'alternative. Je pense que mon livre il documente leur projet et il permet d'y voir un peu plus clair. Moi je propose pas une alternative dans la mesure où je suis journaliste. Donc je suis juste là pour expliquer le projet de l'extrême droite et pourquoi c'est un danger pour la démocratie. En tout cas il permet d'apporter un autre regard que celui qui est porté par l'extrême droite et toute la galaxie d'extrême droite médiatique qui est très puissante en France.
Comment combattre l'extrême droite, c'est quand même le cœur de votre livre. Et si on regarde les faits justement, depuis que vous avez écrit ce livre, on peut dire que l'extrême droite elle a progressé partout. En Europe, dans nos démocraties, elle progresse, mais aussi elle agit. Rien qu'au Parlement européen, pas plus tard que cette semaine, un vote sur l'immigration a lieu grâce à l'extrême droite. C'était déjà le cas en décembre sur la question du Green Deal. Bref, on voit qu'elle est dans le cockpit, en fait. Donc résister, est-ce que ça suffit ?
En tout cas, c'est précisément ce sur quoi j'ai essayé d'alerter. Malheureusement, il me semble qu'on voit bien que j'avais raison d'alerter sur l'ampleur de cette offensive réactionnaire qui est très organisée et coordonnée. Je crois que c'est important de le souligner. C'est pour ça que la nouvelle édition de Résister ne parle pas que de l'extrême droite française, elle parle aussi des extrêmes droites en Amérique latine, elle parle aussi des extrêmes droites évidemment aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, parce que c'est puissant, coordonné, vous dites c'est dans le cockpit, enfin il y a vraiment quelque chose en face qui est très 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 dangereux, et donc pour résister, je crois qu'on a besoin de toutes les forces. Moi ce que je propose c'est de l'information, c'est de dire si on reste lucide, c'est déjà un premier pas. Le danger là qu'on a principal pour moi, c'est qu'on est en train de se démobiliser. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la démocratie est quelque chose d'acquis, parce qu'on a grandi dans des démocraties, notamment en Europe, et que ça ne pourrait pas advenir. Moi, je suis là, dans le cadre de mon travail, pour dire, attention, c'est en train d'arriver, et l'urgence, là, c'est d'en prendre conscience pour trouver les différentes manières de réagir, qui, il est certain, seront multiples. Il n'y a pas une manière de faire. Et donc, là, aux personnes qui nous écoutent, moi, je dis, quel est le domaine dans lequel vous pouvez agir, mais surtout, ne restez pas dans l'impuissance, la sidération, l'inaction.
Depuis que vous avez écrit le livre, justement, il s'est passé beaucoup de choses aux États-Unis, notamment à Minneapolis, où ceux qui ont résisté ont perdu la vie. Quel regard vous avez porté sur cette séquence-là ?
C'est évidemment tragique, les images qu'on a pu voir, mais je pense que ça a permis aussi de montrer le vrai visage du trumpisme, qui, je rappelle, s'est présenté comme un rempart au fascisme. Il faut quand même pas oublier ça, hein. C'est que c'est Donald Trump qui accusait Kamala Harris d'être un danger pour la démocratie, pendant que lui se présentait quand même en sauveur de la démocratie, voix du peuple, donc on voit bien aujourd'hui ce que c'est, on voit bien ce que ça donne. Donc il y a des leçons à tirer de ce qui se passe à Minneapolis et dans plein d'autres endroits aux États-Unis de par la violence, de la bascule autoritaire. Et ensuite sur la résistance, bien sûr, il y a eu ces tragédies absolues, mais je pense qu'il y a aussi une résistance qui est très inspirante à Minneapolis. Et on a tout un tas d'exemples de citoyens et de citoyennes qui simplement se mettent à résister, se mettent à réagir parce que ce n'est pas admissible. Et c'est leur humanité qui va prendre le dessus dans ce type de situation. Et moi, c'est ça le message que je veux porter. Encore une fois, je dis pas faites ci, faites ça, mais simplement ne perdons pas cette boussole-là parce que le pire est encore de ne rien faire. Et à Minneapolis, on ne peut pas dire que les habitants et les habitantes ne font rien.
Pour résister, vous développez dans votre petit livre des trucs et astuces justement sur la question du dialogue, qui est peut-être l'élément le plus concret pour les gens dans une discussion, en famille, avec vos amis. Mettez la politique au cœur de vos vies. Mais est-ce que ça va suffire?
Non, c'est évident que ça ne suffira pas, puisqu'encore une fois, l'information seule ne peut pas être le seul endroit où on préserve la démocratie. Par contre, c'est un des piliers de la démocratie. Donc, prendre le temps, un repas de famille, de discuter vraiment de sujets qui peuvent être difficiles avec des personnes de la manière la plus constructive possible, c'est-à-dire pas un endroit où on cherche à avoir raison, mais un endroit où on cherche vraiment à faire avancer la discussion avec idéalement des faits, avec l'intervention de documents externes, ça peut être du contenu journalistique, ça peut être des livres, ça peut être des films, essayer d'avoir des discussions qu'on va renouveler une autre fois, ça c'est aussi faire vivre la démocratie. Et dans un moment de polarisation, la désinformation et la création de réalités alternatives est une des conditions du triomphe des autoritarismes, de l'extrême droite, voire du fascisme dans certains endroits. Donc ce sera pas suffisant, mais rappelons-nous bien qu'ils en ont besoin de cette désinformation. Et il y a ces chiffres du baromètre Lacroix qui nous montrent chaque année en France que la source d'information la plus fiable, selon les Français, ce sont leurs proches. Donc vous connaissez les interlocuteurs avec lesquels vous allez discuter, vous connaissez leur sensibilité, leurs valeurs, vous savez les exemples que vous allez pouvoir utiliser. Nous, on ne peut pas faire ça à ce micro. Prendre le temps de s'informer soi-même correctement, puis d'essayer de diffuser cette information autour de soi, c'est faire acte, vraiment, de citoyenneté.
Est-ce que vous êtes militante, Salomé Ksake? Comment vous considérez? Comme une journaliste engagée, comme une journaliste militante?
Non, même pas. Moi, je me considère simplement comme journaliste dans la mesure où je rapporte des faits, même sur la documentation des résistances, c'est ce que je fais dans Résister. Mais je tiens à préciser que le militantisme n'est pas une mauvaise chose. Et ça, c'est aussi une des victoires, je pense, de ces extrêmes droites et des formations politiques réactionnaires, que d'avoir réussi à nous faire croire que le militantisme était quelque chose de péjoratif. Je rappelle que si je peux être là aujourd'hui et parler à ce micro, c'est parce que j'ai obtenu des droits en tant que femme, parce que j'ai le droit de vote, parce que j'ai le droit de travailler. Et ça, ça a été obtenu grâce à des militantes et des militants. Et c'est... très, très très précieux. Donc le militantisme, c'est quelque chose de noble. Simplement, moi, c'est pas mon métier. Dans la mesure où je n'organise pas des campagnes comme le font les militants, j'adhère pas du tout à des partis politiques, ni à des associations, ni à des organisations. C'est fantastique ce qu'ils peuvent faire, mais c'est pas mon métier. Et aujourd'hui, ce terme-là de militantisme, il est utilisé pour qualifier des journalistes qui est là pour les discréditer, en fait, pour les disqualifier, pour dire qu'on serait un peu moins journaliste que les autres. Donc moi, je ne me revendique pas de la neutralité, par exemple, parce que je pense pas qu'elle soit atteignable pour qui que ce soit, et je me revendique pas du militantisme, tout simplement parce que bah voilà, c'est pas ma profession.
Vous avez commencé à publier vos contenus sur les réseaux sociaux, et puis dès que les premiers contenus ont été fort partagés, vous avez reçu une vague de haine. Est-ce qu'on essaye de vous faire taire?
Du côté de l'extrême droite, il n'y a aucun doute, oui. Clairement, après, parce que les réseaux sociaux sont des espaces dérégulés à la base, mais de plus en plus dérégulés depuis notamment l'arrivée de Donald Trump. Donc déjà, c'est des espaces où on peut exprimer de plus en plus de haine, de plus en plus de harcèlement.
Et comment vous gérez cette violence?
Comment moi je gère ça? Déjà, je la montre, j'essaie de la montrer aux personnes qui me suivent, parce que c'est pas anodin en fait de s'exprimer sur ces questions-là, sur ces questions d'extrême droite. Après, j'ai vécu vraiment des campagnes de décrédibilisation, de dénigrement, évidemment aussi des insultes, des menaces de mort et compagnie. Je pense qu'on essaie de développer une distance avec ça parce qu'on n'a pas d'autre choix, et parfois on prend des pauses aussi tout simplement pour respirer un petit peu. Je voudrais pas abandonner, et j'abandonnerai pas face à du cyberharcèlement.
Pour mêler deux combats que vous portez, Salomé Ksake, le combat féministe et justement cette lutte contre l'extrême droite, on observe que jusqu'à présent, l'extrême droite était surtout une affaire d'hommes, et que là, avec l'administration Trump, elle prend un visage féminin au pouvoir. On a vu d'ailleurs dans l'affaire de Minneapolis, la secrétaire d'État à l'intérieur prendre tout le pouvoir qu'elle avait en tant que femme. Est-ce que ça vous marque?
Surtout, c'est de plus en plus documenté parce que la chercheuse Sarah Alaris appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire une manière d'utiliser les droits des femmes, et on pourrait même élargir ça aux droits qui ont été conquis pour les minorités LGBTQIA+, par exemple. Donc c'est d'utiliser ces droits qui ont été acquis pour que ces personnes-là aient de plus en plus de visibilité, et donc les femmes, pour se donner une couverture de progressisme et de partis qui seraient comme les autres, notamment en mettant des femmes à certains postes de responsabilité. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on défend les droits des femmes. C'est ça que moi je veux encore une fois souligner, ce qu'on constate très clairement aux États-Unis, puisqu'il y a eu par exemple des leaders, leaders trumpistes qui se sont battus plus pour réprimer le droit à l'avortement. Mais encore une fois, moi je martèle que ces formations politiques restent, malgré tout, réactionnaires malgré ce vernis-là.
Est-ce que l'Europe prend conscience de ce qui est en train d'arriver ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un sursaut européen par rapport à ce qu'on voit justement aux États-Unis ?
Oui, il y a une prise de conscience chez une partie des gens. Moi, tout mon travail, ça consiste à essayer de diffuser cette prise de conscience. Et c'est pour ça que mon livre, il donne avant tout des sources et des outils dont les gens peuvent se saisir. Et j'ai pas envie que ça repose évidemment que sur mon seul discours. La vraie victoire, c'est le moment où les gens commencent à s'informer par eux-mêmes, à avoir des sources d'informations différentes, à être intéressés par la chose publique, à essayer de se structurer dans cette approche démocratique et où la démocratie vit. Mais moi, encore une fois, ce que je constate aussi chez une grande partie des gens, c'est cet état de repli, en fait. C'est parce que c'est tellement terrifiant tout ça, qu'on se replie sur soi-même, on veut rester, on veut juste être dans sa vie parce que c'est déjà assez difficile, et surtout presque plus penser à ça. Et c'est ça le danger. C'est cette indifférence-là. Donc, pour reprendre les mots de Stéphane Hessel, qui était un résistant, qui a écrit Indignez-vous, il disait « Il n'y a rien de pire que l'indifférence, dire « Je n'y peux rien, je me débrouille ». Moi, j'espère que les gens qui nous écoutent se diront pas « J'y peux rien, je me débrouille », mais plutôt « Qu'est-ce que je peux faire ?»
Un grand bonhomme qu'on avait aussi l'occasion d'interviewer. Merci, Salomé Sacquet.
Merci à vous.
Belle journée.